Pavlovski, au salon, le riche amateur. Il court, vient, repart, s'embrouille, se trompe encore de salle, et se retrouve même endroit sans en être bien sûr. Ses pauvres yeux s'accrochent un moment au long des murs. Noyé dans cette mer d'huile, il cherche quelques vaches, quelques portraits de repères, et quand il se croit sûr d'être déjà passé par là, il fonce à nouveau dans les galeries sans fin comme un désespéré. Et comme pour lui, tous les tableaux se ressemblent, il se sent perdu dans leur innombrable uniformité. Il est venu cependant avec l'idée ferme de noter quelques toiles pour ses achats futurs, mais vraiment, il ne sait auquel s'arrêter. De ses goûts personnels, certes, il n'est point question. Le riche amateur sait se sacrifier pour ses amis. Aussi ne cherche-t-il qu'à deviner ce qui saurait leur plaire. André approuverait l'achat d'un paysage, mais Paul n'aime que les marines. Un amateur de son entourage ne voit que la peinture noire, un autre n'admet que les toiles claires. Il en mettra dans sa galerie pour tous les goûts, c'est entendu. Ce n'est qu'une simple question d'argent, mais encore, dans chaque genre, à quelle œuvre se résoudre? Le riche amateur regrette déjà d'être venu seul et sans appui. Sans doute serait-il flatté de faire son choix sans le secours d'autrui, mais il redoute quelques bévues. Si André était avec lui, les responsabilités seraient partagées. Mais ni André ni Paul ne sont là. Hésitant, sentant son ignorance, hochant douloureusement la tête, le riche amateur commence à noter quelques toiles sur son carnet. Dieu sait à quelles heures il va s'arrêter. Mais non, les tableaux qu'il note, sans être remarquables, ne sont point les plus mauvais. Un dieu protecteur semble guider ses pas et lui interdire d'acheter les croûtes infâmes qui déshonoraient à jamais sa galerie. C'est qu'au bas de chacune d'elles, une petite inscription tutélaire l'en empêche. Acquis par l'État, l'amateur éclairé. Quel est cet homme qui parcourt une à une toutes les salles, s'arrête devant un tableau, l'examine longuement, puis reprend sa course, s'arrête encore et repart? Un souverain peut-être, ou tout au moins quelques hauts personnages étrangers. On ne peut justement penser, en voyant la foule s'éclipser avec respect sur son passage et le laisser discrètement à ses méditations. À coup sûr, ce n'est point quelques ministres. Nul cahut, nulle curiosité de mauvais ton ne vient entraver ses pas. Le voici dans la salle des gravures. Ses désirs, sans doute, ont été prévus et quelques services d'ordre invisible le protègent, car il reste seul, admirant tout à son aise des œuvres de choix. Plus loin, des peintures attirent ses regards. Il n'en faut pas tant pour que la foule disparaisse, et certaines galeries sont vides lorsqu'il entre les visiter. Cependant, les agents ne se montrent pas, et si leur discrétion peut déjà surprendre avec raison, celle de la foule se conçoit encore moins. Mais quel ordre mystérieux a-t-elle pu recevoir pour que nul regard ne trouble même l'auguste visiteur? Serait-ce donc le tsar ou bien quelqu'un des siens? Mais non, la police n'a que faire en pareille matière. Et si le merveilleux promeneur voit la foule s'éloigner docilement des tableaux qu'il admire et masquer discrètement ce qu'il veut éviter, c'est qu'une force le protège et l'isole, plus efficace que celle des rois. Elle manque de goût, et lui en a. Apoplexie. Comme un taureau qu'on lâche dans l'arène, le gros monsieur pénètre dans la salle où sont les peintres d'avant-garde, et de suite il est sous pression. Son indignation ne connaît plus de bornes. Il essaye d'en rire, mais après tout, il n'a point l'impudence d'un Figaro. ses forces trahissent. Oh, décidément, il préfère en pleurer. De la peinture, cela, de la peinture, miséricorde. Il semble chercher autour de lui aide et sa protection. Mais pareille monstruosité n'est pas possible. On s'est trompé, n'est-ce pas, mon Dieu? Serait-ce même une triste plaisanterie? Oh, des gardiens vont venir bondir sur de pareilles horreurs et les enlever au plus vite. Et le gros monsieur semble s'étonner à chaque minute de retard que tout cela ne soit point déjà fait. Il reste là, il veut jouir de leur stupeur. Cependant, personne ne vient et le gros monsieur ne sait plus que penser. Né romain, il invoquerait les dieux infernaux. Né dans une arrière-boutique, il préfère en prendre à témoin, comme à son habitude, sa femme et sa fille. Mais toutes deux restent effarées, serrées l'une contre l'autre. Toute cette peinture les ennuie, surtout depuis qu'elles y voient une source nouvelle de colère. Cependant, vaguement, leur âme obscure, sachant combien leur époux et père se montrent injustes en ces querelles ménagères, elles sont prises d'une secrète sympathie pour ces peintres qui l'invectivent comme elles.